voix nue. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre Odile Deck. Ce soir, du punk à Londres au Lion d'Or à Venise.
Bonsoir Odile Deck.
Bonsoir Zoé.
Nous sommes ravis de vous retrouver, Odile Deck, architecte, pour ce deuxième épisode d'Avoix Nues. Nous sommes toujours dans votre studio, le studio Odile Deck, rue des Arquebusiers. On a parlé hier de votre enfance, de votre formation un peu en autodidacte, entre l'UP6, ancêtre de la Villette, vos travaux théoriques pour Philippe Baudon, et puis votre apprentissage de ce métier sur le tas, quand vous êtes très jeune, vous avez la vingtaine. Le début des années 80 marque une forme de tournant. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider les jeunes. Vous-même y participez, puisque vous partez en Allemagne pour apprendre comment le système de concours fonctionne en Allemagne, un système qui n'existait pas alors en France. Qu'est-ce que ça a créé comme impulsion et qu'est-ce que ça a permis à la jeune architecte que vous étiez, rejointe en 85 par Benoît Cornette dans une agence qui devient ODBC et qui va très vite vous voir tous les deux exploser, même si ce terme est assez laid. Cette sensation des années 80, c'était comment, ce début des années 80?
Alors, le début des années 80, je les ai trouvées lentes, même si vous avez l'impression que c'est une explosion. Oui, parce que j'avais le sentiment que malgré tout, ça n'allait pas vite. Certes, j'avais des petits travaux, j'avais réussi à faire des projets dans ma région d'origine, puisque j'ai quand même réussi à avoir quelques projets à Laval, mais avec beaucoup de difficultés, puisque il y a même un bâtiment qu'on m'a fait démolir alors qu'il était en cours de construction et qu'on n'a pas pu reprendre après, que le maire m'a fait des menaces en me disant que si j'étais obéissante, je pourrais le continuer et que si c'était pas comme j'étais pas obéissante, eh bien il n'existerait plus jamais. Donc j'ai dit ben je m'en vais.
Ça voulait dire quoi être obéissante?
Ben c'est-à-dire qu'en fait ça veut dire accepter de ne pas résister à des décisions qui avaient été prises alors que j'étais dans mon droit. J'avais le droit de faire ce bâtiment, j'avais le droit puisque j'avais obtenu un permis de construire. Mais des gens avaient dénoncé le fait qu'on avait enlevé des morceaux importants du bâtiment pour pouvoir le construire et considéraient que le bâtiment avait été démoli, ce qui n'était pas le cas. Et la ville a préféré, parce que c'était pour une banque, avait préféré faire un compromis. Et moi, je ne voulais pas de compromis parce que déjà à l'époque, pour moi, j'étais dans mon droit, donc je pouvais le faire. Et on me demandait de faire un autre projet, de l'amoindrir, etc. Et j'ai dit non. Et c'est pour ça que je suis partie. Et que ce maire, eh bien, je lui ai dit non. Mais j'ai après continué à dire non souvent. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Parce que on me prenait toujours pour la petite. Parce que j'étais une fille. Parce que j'étais jeune. Et, je me souviens que j'avais un ami qui, à l'époque, travaillait chez Renault, quand même. C'était à la fin des années 80. C'était les grands concours pour le transfert de Renault à Guyancourt. Il y avait des gros concours qui arrivaient. Il m'appelle un jour, il me dit, Odile, voilà, écoute, je voudrais mettre ton nom sur un des projets. Je dis, bah, formidable. Il me dit, mais c'est très, très gros, c'est 100 000 m². Je dis, et alors? Il me répond. Je dis, bah, écoute, il me dit, mais dans ces cas-là, il faudrait que tu travailles avec un bureau d'études de cette taille-là, de ces trucs-là, parce que tu comprends, autrement, tu arriveras pas. Je dis, non, parce que je sais que si je me mets avec ce bureau d'études-là, je me ferai manger. Et je ne vais pas pouvoir survivre face à ces gens-là. Donc je dis, je suis désolée, je vais décliner ta proposition de faire le concours. Ce qui est quand même fou. J'avais fait aussi, à la fin des années 80, un concours pour le siège Europe d'Apple, qui arrivait à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et parce que, je ne sais plus par quel biais, j'avais rencontré les gens d'Apple. Et je me suis retrouvée à être sélectionnée pour faire le concours. C'était un concours privé, on était 6 architectes, ils en gardaient 3 pour le deuxième tour. Il n'y avait pas de programme, c'est assez fantastique ce qui m'est arrivé à ce moment-là parce que ce concours était non pas un programme de bâtiment, mais c'était deux films qu'il fallait aller écouter et voir avec eux, à leur siège. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois ce qu'allait être l'iPad, par exemple. Il y avait quelqu'un qui rentrait chez lui et qui déjà avait commandé par avance sur son téléphone ou sur un objet de mettre le chauffage en route, de faire lancer quelque chose dans son four ou je sais pas quoi. Il arrivait chez lui, il y avait une machine qui posait dans son entrée, qui lui disait bonjour, qui disait voilà ce qui se passe, etc. Et en fait, c'est le début de tout ce qui se passe aujourd'hui.
Ça paraissait fou à l'époque.
Oui, ça paraissait complètement demain. Enfin, ça paraissait ce qui allait arriver dans le futur et je ne savais pas quand est-ce que ça allait arriver. C'est pour ça que le jour où l'iPad est arrivé, je me suis dit, mais je l'ai déjà vu 10-15 ans avant. Donc, je suis retenue pour le second tour. Et le second tour, ce qui était aussi 100 000 m², c'était pas rien. Et le second tour, c'était, il fallait faire un vrai bâtiment cette fois-là, pas simplement des idées conceptuelles, un vrai bâtiment, mais Apple n'a pas géré ça tout seul. Ils ont pris un promoteur pour les aider. Et le promoteur, évidemment, il voulait un bâtiment assez normal, assez normé, etc. Donc, ils me convoquent dans leur bureau. Et ils me disent, vous comprenez, mademoiselle, c'est gentil quand on me disait ça, vous comprenez, mademoiselle, ce votre bâtiment, là, il peut pas, ça peut pas se construire comme ça. Enfin, si vous voulez faire du métal et du verre, bien non, c'est pas possible. Ça sera à vous. Mais je dis, mais si, si, moi, je sais faire, vous inquiétez pas. Enfin, il n'y a pas de souci, je leur démontre ma capacité. Ils ne voulaient pas. Et je leur ai dit, écoutez, je crois que vous allez être en train de perdre l'esprit qu'Apple voulait insuffler dans son projet. Et je ne suis pas d'accord avec vous. Donc j'appelle les gens d'Apple et je leur dis, voilà, si vous voulez vraiment faire ça, je ne pourrai pas faire le concours. Donc ils me disent, mais non, Odile, faut continuer, il faut faire ça, etc. Donc j'essaye de continuer. Et puis je pose 2-3 questions, je repose à nouveau des questions à Apple et aux promoteurs. Et je comprends à la fin que définitivement c'est non. Et donc je n'ai pas rendu le second tour. Alors que je l'avais fait. Donc je suis un peu tête brûlée, c'est vrai. J'ai démarré très tête brûlée.
Vous avez préféré dire non. Ça manifeste aussi d'une assez grande foi dans ce que vous voulez défendre.
Dans ce que je voulais défendre, exactement. Je ne voulais pas me parjurer, je ne voulais pas me partir dans le compromis, je ne voulais pas... parce que ça m'aurait nourri, alors qu'on vivait très mal, parce que je vivais très mal, parce que je ne gagnais pas d'argent, parce que je n'avais pas de boulot. Mais ça m'était égal. Je préférais faire ça que de me compromettre et surtout d'abdiquer ce en quoi je croyais.
Et déjà à l'époque, parce que là on parle donc des années 80, donc 80 puis 85 avec cette agence, vous revendiquez, et avec Benoît Cornette, mais vous, cette idée d'une architecture qui soit très proche de la technologie, ou en tout cas liée à l'idée de la technologie, oui. Ce qui n'était pas évident à l'époque.
Non, ça n'existait pas du tout en France. Et d'où ça nous venait ? De Londres. Parce que à l'époque, on était aussi très proche de la scène musicale londonienne, donc la fin du punk et le début du gothique, et on allait, je sais pas, tous les week-ends, tous les deux week-ends à Londres, parce qu'on avait beaucoup d'amis dans la musique, et c'était aussi le moment où de la grande transformation de Londres et de tout l'est de Londres, avec l'Isle of Dogs et la Lloyd's et tous ces bâtiments-là. Et ce qu'on faisait, c'est que ça aussi, c'est un apprentissage sur le tas, c'est qu'on allait les visiter. Le dimanche matin, on partait dans les chantiers. On s'infiltrait dans les chantiers.
Vous intrusiez, tout à fait.
Et on allait les visiter, et on allait comprendre, regarder les détails, les photographier, voir ce que c'était, comment c'était construit, pour comprendre comment il fallait construire, comment on avait envie de construire nous. Et c'est ça ça m'a aussi énormément formé sur la façon de construire en métal et en verre.
C'était ces anglo-saxons qui vous inspiraient plus que ce que vous connaissiez ou ce que vous voyiez en France?
Oui. Oui, parce qu'en France, on construisait en béton. Ouais. On construisait avec la masse. On construisait avec la volumétrie et la masse. Quand vous construisez en métal, vous construisez avec la structure. Et il fallait d'abord penser, en même temps que vous construisez, penser l'espace, vous pensez la structure et donc la manière de le construire. Alors quand vous construisez en béton, ben vous faites des murs et puis vous attendez que le mur soit construit, quoi. Parce qu'en fait, il va falloir attendre longtemps pour que le béton devienne un matériau avec lequel on puisse expérimenter. Il fallait encore attendre. Mais à l'époque, avec le métal, on pouvait le faire. Sauf que personne ne construisait en métal, ou quasiment pas en France.
Pourquoi ça, d'ailleurs? Ça paraît évident, parce qu'on connaît Eiffel quand on est
en public. Parce qu'il y avait eu un incendie dans un lycée, autrefois, qui s'appelait CES Payron. Et ça avait traumatisé, parce que les joints entre les planchers et les cloisons de la façade n'avaient pas été fermés. Et donc le feu s'était propagé partout, il y avait eu des morts. Et ça avait complètement ruiné l'idée de construire en métal. Et les gens du lobby du béton, évidemment, s'en est donné à cœur joie pour arrêter l'industrie métallique et en particulier la construction métallique des bâtiments. Et donc, c'est pour ça que lorsque la Banque Populaire s'est retrouvée à faire le concours, pour nous, c'était évident de le construire en métal et en verre. Parce que c'était notre culture.
Vous dites souvent que le verre, pour vous, et la possibilité de construire avec beaucoup de verre, c'est un des acquis architecturaux qui vous semblait à l'époque le plus important, et encore aujourd'hui.
Absolument, et ça l'est toujours. C'est parce que le verre, c'est un matériau sur lequel on innove énormément, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de recherches sur le verre.
Et vous avez toujours beaucoup travaillé, je crois que j'en ai vu d'ailleurs ici, comme les anglo-saxons d'ailleurs, en vous inspirant, les avions, la voiture, le train, tout ça vous inspire beaucoup. C'est pas évident, pourquoi justement?
Parce que ce sont des objets techniques assez fascinants, complètement fascinants. Par exemple, ici, si vous cherchez, enfin, il y a un endroit dans la bibliothèque où il y a beaucoup, beaucoup de bouquins sur les avions, et en particulier les avions de chasse. Et les avions de chasse, parce que les avions de chasse sont des avions absolument fascinants. Et en particulier leur structure, parce que, en fait, si vous regardez la coupe d'un avion, vous auriez très, très peur si vous la regardiez. Parce que c'est une toute petite structure très fine, avec 2 feuilles d'aluminium de chaque côté. C'est très fin et ça prend beaucoup de souplesse. C'est pour ça que quand vous avez des turbulences, vous êtes très secoué parce que c'est l'avion qui bouge. C'est la coque de l'avion qui bouge elle-même et qui vous fait secouer. Mais c'est en même temps des structures extrêmement solides parce qu'elles ont la souplesse qui permet de s'adapter au contexte dans lequel elles sont, qui est la turbulence. Et c'est ça qui est fascinant. Et les, les avions, les voitures. J'ai toujours été fascinée par les voitures parce que ce sont aussi des objets qui se sont développés avec une vision moderne, une vision très très moderne et très contemporaine, même souvent avant-gardiste par rapport à l'époque dans laquelle elles s'installaient. Et ce qui est très très étonnant d'ailleurs, c'est que c'est Le Corbusier qui montrait ça, c'est que Le Corbusier dessinait des bâtiments extrêmement modernes et devant il y avait des voitures extrêmement archaïques. Puisqu'il y avait des voitures qui étaient plutôt héritées de la carriole et qui étaient encore le début de l'automobile quand il faisait dans les années 20 des bâtiments. Donc il était moderne alors que les voitures n'étaient pas encore modernes. Puis on est passé aux voitures modernes avec des bâtiments qui n'avançaient pas aussi vite en progression contemporaine, si je peux dire. Et aujourd'hui, si vous regardez les voitures, donc les voitures ont perdu de leur modernité dans le dessin, dans le design, parce que les voitures futuristes, les voitures aérodynamiques et tout ça, c'est fini, puisque maintenant, avec l'essence trop chère et tout, on se préoccupe plus du coefficient de pénétration dans l'air de la voiture, on se préoccupe plus de la forme et de l'aérodynamisme, moins. Et donc, on peut revenir à des voitures avec des carcasses plus grosses, plus rondes, etc. Et à côté de ça, vous avez des bâtiments comme avec des façades en verre et en métal qui sont extrêmement modernes, si je puis dire. Donc, il y a toujours une mise en relation de décalage dans le temps entre la construction d'un bâtiment et la construction des voitures. C'est très surprenant.
Très surprenant et fascinant. Oui. Justement, on peut peut-être parler de cette fameuse Banque Populaire de l'Ouest, qui a été, je pense, un bâtiment très important oui. dans votre carrière. Très. J'ai lu que ce bâtiment, il vous avait été confié par un homme que vous aviez rencontré à l'arrière d'un bus. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Non, j'ai été sélectionnée pour faire le concours grâce à ça. En fait, je suis partie, j'avais rencontré une jeune femme qui s'occupait d'une association pour architecture et maître d'ouvrage, qui était au début de cette association qui maintenant existe depuis longtemps. Et ils organisaient des voyages d'architectes avec d'autres personnes. Et ils voulaient organiser un voyage à Londres. Elle me dit, toi qui connais très très bien Londres, tu devrais venir. Je dis, mais moi j'aime pas les voyages d'architectes, ça m'ennuie, j'aime pas. Voilà. Elle me dit, mais si, tu devrais venir. Donc finalement, je viens. Et à l'arrière du bus, effectivement, il y avait tout un groupe. Parce que évidemment, l'arrière du bus, c'est toujours l'endroit le plus intéressant. Et il y avait donc un groupe un peu plus agité, un peu différent. Et il y avait donc quelqu'un qui était l'architecte, qui travaillait pour le siège social de toutes les banques populaires en France. Mais moi, je n'ai pas plus parlé que ça avec lui, hein, c'était différent. C'était juste comme ça. Et un an après, il m'appelle et il me dit, Odile, voilà, je fais ça. Il y a un concours qui est organisé à Rennes pour le bâtiment administratif de la Banque Populaire à Rennes. Et normalement, c'est moi qui devrais le faire, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de tous les bâtiments partout, j'en ai trop en ce moment. Donc je vais organiser un concours et comme j'ai pensé qu'il fallait prendre un jeune, on a regardé dans la région, il n'y a que toi qui as les albums, grâce à ces albums. Donc voilà, si tu veux bien faire le concours, j'ai dit, ben pourquoi pas rémunérer 1000 francs, c'est-à-dire rien. J'ai dit, ben c'est pas grave, puisque c'est pas rémunéré, on fera ce en quoi on croira. Et puis je vais donc à Rennes rencontrer le président de la banque, qui me dit, écoutez madame ou mademoiselle, parce qu'à l'époque tout le monde m'appelait ma petite demoiselle, mais qui me regarde quand même, parce qu'à l'époque, faut pas oublier que j'avais les cheveux jusqu'aux fesses, bleu, rouge ou jaune, ça dépendait des jours, et avec un maquillage aussi très particulier,
les yeux qui rouges,
voit, qui me voit arriver et qui se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Il va déjeuner avec moi au restaurant, il revient, et sa secrétaire m'a dit plus tard qu'il était rentré du restaurant en disant, c'est la première fois qu'on me regardait au restaurant. Alors que c'était le restaurant où il allait tout le temps. Donc je discute avec lui, je lui explique je pose plein de questions parce que moi je passe ma journée à enquêter pour comprendre ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait, ce qu'ils avaient comme intention, comment ils voulaient que les gens travaillent dedans, comment faire mon travail réel, enfin mon vrai travail d'architecte. Et puis je comprends en cours de route que seraient les candidats le fils du président de la banque, celui qui avait fait le siège de la banque qui venait d'absorber dans la région d'à côté, l'architecte avec qui il travaillait tout le temps. En fait, en gros, j'étais là carrément, on était les outsiders totaux. Donc je rentre à Paris et je dis, ben voilà, on est outsider total, donc on fait ce qu'on veut, et ça passe ou ça casse. Et donc c'est comme ça qu'on a dit, ben on va faire ça en quoi on croit. Et on a fait ce projet extrêmement minimal et en même temps extrêmement fort.
Alors comment est-ce que vous pouvez le décrire à quelqu'un qui ne l'a jamais vu?
Alors,
ce projet?
C'est un grand rectangle de 120 mètres de long, qui a une façade entièrement vitrée, chose qui n'existait pas à l'époque, et dont le verre est totalement suspendu. Et n'est pas tenu dans des cadres, ce qui était totalement innovant pour l'époque, puisque le seul endroit où on avait fait une façade comme ça en verre, c'était les serres de la Villette, qui venaient d'être finies. Et donc, on a appelé après l'ingénieur avec qui avait fait ça, qui est l'ingénieur anglais, Peter Rice, qui est le plus grand ingénieur de la fin du XXe siècle, qui est mort maintenant, et pour nous aider à travailler sur cette façade uniquement. Mais on avait fait ça. Et je me souviendrai aussi d'une anecdote, parce que je me souviens qu'on a rendu ce concours à la début février 88. Et à cette époque-là, sort Amadeus, le film.
De Milos Forman.
Milos Forman. On va le voir. Et dans un, à un moment, il y a l'empereur qui dit trop de notes, trop de notes. Et on rentre à l'agence le lendemain et on dit trop de traits, il faut qu'on enlève des traits. Et qu'on aille au minimum. Et donc on a cherché à épurer, épurer, épurer jusqu'à avoir le minimum de traits pour faire ce projet.
Et ce projet a gagné.
Et il a gagné par hasard. Enfin, il a gagné complètement dans des conditions. Il fallait apporter la maquette, les maquettes, parce qu'il y avait deux bâtiments à faire. Donc je suis partie le matin du concours, je savais que je passerais la dernière. Donc je suis partie avec dans la voiture les maquettes, les plans. Et j'arrive, au moment où je devais présenter, je sors mes maquettes, je déroule mes plans et je découvre que les plans du deuxième bâtiment n'étaient pas là. Je les avais oubliés.
Acte manqué.
Acte manqué, donc je me dis, ben, il n'y a pas le choix, il faut continuer. Donc je passe l'oral en expliquant, puis l'autre projet, je le décris, je raconte comment ça va se passer et tout. Puis je voyais sur la maquette quand même. Et contre toute attente, on gagne.
Et ça, ça vous a lancé complètement. Ah ben,
complètement, parce qu'en plus de ça, mais le pire, la performance aussi, c'est qu'on gagne donc début février 88, et le banquier nous dit, voilà, au 1er janvier 1990, je veux pouvoir rentrer dedans. Ça veut dire même pas deux ans. Et pour faire deux bâtiments, avec 7000 m², c'est pas rien. Et avec une technologie dont certains endroits étaient un peu totalement expérimentales. Donc on dit, ben, il n'y a pas le choix. Donc à ce moment-là, on s'est mis 24 heures sur 24 à faire ça pendant deux ans. Et on l'a fait.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a créé? Vous étiez toute jeune encore.
Oui, bien sûr. Mais il commençait à y avoir des appels d'offres, pour des appels à candidature pour des prix. Et en particulier, il y avait un prix en Grande-Bretagne qui était européen, pour lequel on a envoyé des photos de bâtiments pas finis, parce qu'il n'est pas tout à fait fini. Et on a eu deux prix pour ce bâtiment-là, alors qu'ils en avaient, normalement, on devait en avoir qu'un seul. Mais ils ont créé un super prix qu'ils nous ont donné, tellement ils ont trouvé ce qu'on avait fait formidable. Et ça a commencé à nous faire connaître et à diffuser partout dans le monde.
Et donc là, il a commencé à y avoir d'autres projets, Port de Gennevilliers, c'est ça?
Quelques années plus tard, le Port de Gennevilliers, un bâtiment à Limoges, deux bâtiments pour l'Université de Nantes, qu'on a gagné coup sur coup, parce que c'est la grande période des concours à l'époque. C'est le début des années 90, puisque tout ça s'était livré début 90. Et tout le début des années 90, je me souviens que pendant deux ans à un moment, on a fait 24 concours en deux ans, ce qui est de la folie furieuse. Il y avait énormément de concours, on était retenus presque tout, et on faisait tous les concours.
Et puis en plus, vous le dites, c'est le moment où on est dans un espèce de retour de l'opulence en France, il y a plus d'argent.
Il y a beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de projets, beaucoup de choses. Donc, et par chance, comme on avait commencé à être connu, ça nous arrivait. Donc on pouvait être sélectionné et on pouvait les faire.
Donc le début des années 80, plutôt lent, puis accélération
brutale fin des années 80-90. Et début d'une vision internationale. Parce que on avait fait aussi, dans la fin des années 80, des maquettes particulières dans notre agence, parce qu'on s'ennuyait à un moment avant le concours de la Banque Populaire. Et on avait fait des maquettes un peu conceptuelles. Comme on avait une petite agence, des petits locaux à l'époque, on les a mis sur le mur. Et viennent nous voir des gens qui passent nous voir, qui nous disent, mais vous savez, nous on a un lieu dans les Halles, si vous voulez, on peut les exposer. Donc on dit d'accord, donc on monte une exposition, nous tout seuls, avec des petits catalogues, on demande à des gens d'écrire pour nous dans le catalogue, etc. Et on invite tout le monde. Et les gens viennent nous voir en disant, mais c'est quoi ça? Et puis ce petit catalogue, je l'ai apporté à Londres à un éditeur qui s'appelait Andreas Papadakis à l'époque, qui était rédacteur en chef et propriétaire de la revue Architectural Design AD. Et qui m'a dit, bah, écoutez, je vous prends deux catalogues, je les mets à vendre dans ma boutique, et je vous publie votre projet dans la revue AD. Donc on a commencé à être publié. Il m'a fait venir à tous les séminaires, tous les grands symposiums qu'il faisait deux fois par an, où c'était l'endroit où il fallait être. En fait, je ne le savais pas. Mais il faisait deux fois par an un grand symposium où un critique qui s'appelait Paul Finch, qui est maintenant le rédacteur en chef d'une grande revue anglaise, et Charles Jenks, le fameux critique Charles Jenks, décidait de thèmes. Et réunissait une quarantaine d'architectes dans une salle. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec tout le monde, tous ceux qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit Richard Mayer, que ce soit Foster, que ce soit Will Alsop, tous ces gens-là, dans la même salle. J'étais la petite jeune, et la seule française. Et je me suis retrouvée à discuter avec eux sur le thème, et à devoir faire des propositions d'écrit, etc. Deux fois par an, je faisais ça, grâce à Papadakis, qui m'a fait venir là-dedans. Et ça m'a permis, et donc j'étais beaucoup publiée, on nous connaissait beaucoup à l'étranger. En France, on était regardés comme des zombies.
Mais il se passe quand même quelque chose quand même d'important en 96, c'est qu'on confie le pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise.
Non, on confie la scénographie seulement. La scénographie. C'est pas pour le pavillon français, contrairement à ce que disent les Français. C'est grâce à ce qu'on avait exposé comme architecture émergente. C'est là où on a exposé, c'est là qu'on a eu notre lion d'or.
Et alors justement, qu'est-ce que ça représentait ça pour vous? ou pas d'ailleurs. La Biennale de Venise, c'est quoi quand on est architecte?
À l'époque, il y en avait pas beaucoup, il n'y en avait pas tous les deux ans. Il y en avait une en 91 et une en 96. Entre les deux, il n'y en avait pas eu. C'est une grande exposition où vous rencontrez plein de gens. Et c'est un endroit où vous rencontrez tous vos confrères, tous vos collègues du monde entier. Et où moi, j'en connais de plus en plus, parce que j'en connaissais grâce à ce que je faisais avec Papadakis. Et donc, c'est des relations que vous faites, que vous développez, qui m'ont permis à moi d'avoir Faydon qui est venu me voir pour faire un premier livre qui est sorti en 2006, d'aller enseigner au Canada dès le début des années 90, de rencontrer plein de choses. Et c'est ça qui vous donne beaucoup, beaucoup de visibilité. Et le Lion d'Or, je ne savais même pas que ça se distribuait pour les architectes. Et je me souviendrai toujours du dîner de la veille, le grand dîner qui rassemblait tous les gens de la Biennale. Beaucoup d'architectes que je regardais comme des icônes venaient me taper sur l'épaule en disant « Oh, bravo, Odile !» Je ne sais pas pourquoi ils me félicitaient. Et le lendemain matin, j'apprends que j'ai des lions d'or. Et c'était formidable.
Et qu'est-ce que vous aviez proposé avec Benoît Cornette pour ces fameuses pavillons d'architecture?
On avait présenté deux bâtiments. Le bâtiment des dessins qu'on avait fait pour le bâtiment de Limoges, dont je parlais tout à l'heure. Et puis le pont à la Défense, le pont de la 16 qui passe en viaduc au-dessus de Nanterre.
Vous aimez beaucoup les choses suspendues?
Assez, oui. J'aime la lévitation, j'aime les choses qui sont légères.
Et alors, c'est vrai. Pour comprendre, à cette époque-là, vous travaillez donc avec Benoît Cornette. Comment ça fonctionne? C'est une agence qui est grande, qui est petite. Vous travaillez en complémentarité. Comment est-ce que vous la viviez, cette vie, dans cette agence qui, je crois, était déjà ici, non?
Elle est arrivée ici en 93. Donc avant, elle n'était pas là, elle était rue Saint-Honoré. Mais non, c'était moi, j'étais dehors. Moi, je voyais rencontrer les clients, je faisais les chantiers, je faisais les conférences, etc. Benoît détestait tout ça, donc il restait ici. Et il était plutôt à travailler avec les gens de l'agence. C'était pas une grosse agence, on est monté jusqu'à 20-25 maximum. Comme moi ici, ça fait des va-et-vient aussi entre 15 et 20, donc c'est pareil. Et parce qu'on n'a jamais voulu, et je n'ai toujours pas voulu, avoir une grosse agence. Je ne veux pas avoir une grosse machine. Je veux rester une petite agence dans laquelle je sais tout ce qui se passe, dans laquelle je sais tout ce qui sort de l'agence et que tout ce qui sort de l'agence a la qualité que je veux. Et voilà, quelle que soit la nature et la taille du projet.
Qui sont les architectes de votre temps qui, à l'époque, vous intéressent? Qui vous voyez émerger en même temps que vous dans cette fameuse période 80-90? Qui vous intéresse ou, au contraire, contre lesquels vous vous construisez?
Non, 80-90, pas beaucoup. Mais c'est après 90 qu'on a commencé à les rencontrer. Et il y a surtout une exposition qui est importante, c'est 95, à Londres, dont on a fait partie, qui s'appelait Théorie Expérimentation, où ont été exposés tous les architectes dont on parle aujourd'hui. Que ce soit Diller Escofidio, que ce soit le studio Asymptote, que ce soit... Enfin, bon, on était les seuls Français, encore une fois de plus, mais tous les Américains, les Anglais, les gens d'un peu du monde entier étaient là. Toute cette génération des gens qui avaient un peu moins de 40 ans ou 40 ans. Et on était tous là, dans cette grande exposition, au dernier étage d'un grand centre commercial à Londres, organisé par Andreas Papadakis, cette revue encore. Et où sont venus pour participer pendant 3 jours tous les autres architectes, que ce soit Peter Koch, que ce soit Tom Mann, que ce soit... Tous ces gens-là sont venus voir et participer à ces symposiums. Donc c'était des grandes rencontres à nouveau. Nous étions vraiment dans cette famille-là architecturale, ça c'était clair. Et ça allait toujours pour moi.
Qu'est-ce que ça apporte justement d'avoir cette idée d'une famille architecturale? C'est-à-dire, ce que font vos collègues, vos pairs, vous le regardez, ça bouge
oui,
en
bien
vous?
Bien sûr. On regardait beaucoup ce que faisaient les autres et on s'appréciait par nos différences et non pas par nos ressemblances. C'est pas intéressant. Les différences, c'est ce qui vous permet de vous enrichir et ce qui vous permet de vous confronter et de débattre. Autrement, le reste n'est pas intéressant.
Par exemple?
Que ce soit ce que faisaient les Américains avec le début de l'architecture virtuelle, la réalité virtuelle, qui commençait dans les années 90, qui était virtuelle plus ou moins, parce que c'était les débuts, parce qu'on en parlait beaucoup à l'époque. Je me souviens que quand j'enseignais déjà avec mes étudiants, on parlait beaucoup de ça. Et il y a eu la déconstruction à la fin des années 80, début des années 90. Et après ça, parce que nous, on était dans ce monde-là, dans ces amitiés-là, en France, on nous a taxés de déconstructivistes, alors qu'on n'était pas vraiment déconstructivistes. Et parce que le métal et le verre donnaient l'impression aux Français de nous affilier à cette famille du déconstructivisme, et on n'était pas. Parce qu'on ne pouvait pas, en France, déconstruire un bâtiment, ça coûte beaucoup trop cher, et on est plutôt en France dans le monolithe. Et c'est d'où l'exposition du monolithe fracturé en 96, faite avec l'autre parent. Mais non, c'est plutôt des amitiés de reconnaissance, de différence, je crois.
Et avec les artistes aussi, j'y reviens. Vous êtes proche de photographes à l'époque, vous êtes proche de peintres.
Je n'ai jamais été proche des artistes eux-mêmes, des personnes.
Des œuvres,
c'est ça.
Plus des œuvres que des peintres. Des œuvres,
oui.
Quoi, par exemple?
Ben, Richard Serra me fascinait totalement. Soulages m'a fascinée jusqu'à sa dernière exposition à Beaubourg, où j'ai trouvé ça un peu décevant. Mais peut-être que c'est une erreur de ma part, je ne sais pas.
Le cinéma, d'ailleurs.
Matta Clark, des gens comme ça. Oui, le cinéma était important parce que c'était aussi... je me souviens des années 90, c'était quand même les films de... Tarantino, c'est le début des années 90. 90, voilà. La déconstruction du scénario et la reconstruction pour raconter l'histoire, pour nous, c'était fondamental. Parce que ça voulait dire que, quelque part, on n'était pas obligé de raconter l'histoire dans l'ordre. Et donc, dans un bâtiment, on pouvait aussi se poser la question de parcourir un espace qui n'était pas forcément dans l'ordre. Et qu'on pouvait retravailler l'espace en se disant comme si on était dans un scénario de Tarantino. L'idée du cinéma et du montage au cinéma était pour nous fondamentale pour la construction de l'espace. Parce que vous n'entrez pas dans un espace dans le cinéma de la même façon que vous entrez dans un bâtiment pour passer d'un espace dans un autre. Vous pouvez vous passer d'un espace dans un autre sans avoir besoin d'avoir ouvert une porte dans le cinéma. Et vous pouvez vous retrouver dans l'autre sens immédiatement après. Donc tout ça, c'est des façons, des expériences sur lesquelles on réfléchissait beaucoup et sur lesquelles on essayait de voir, faire des expérimentations d'espace pour voir si ça pouvait marcher aussi dans le réel. Et on a essayé. Et on a fait fabriquer des choses comme ça. Et un peu, la BPO était un peu l'héritage de premières expérimentations là-dessus, en particulier le hall, un hall travelling qu'on avait fait avec un autre hall derrière, qui était un hall où on rentrait direct en passant une porte.
Vous utilisez un vocabulaire du cinéma, un hall travelling.
Absolument, absolument. On utilise beaucoup mais le cinéma est très important pour la construction de l'image en mouvement. Et comme l'architecture, c'est aussi de l'image en mouvement quand vous circulez dans un bâtiment, et bien pour nous, ça paraissait évident de faire ça.
Ça, c'est ce que disait, je crois, Philippe Boudon, l'espace géométrique n'est pas l'espace architectural.
Bien sûr, parce que l'espace géométrique, c'est celui qui est dessiné sur la table, alors qu'en fait, dans la réalité, il est en 3 dimensions et en 4 dimensions parce qu'on se déplace dedans.
Dernière question, peut-être justement sur le fait de travailler à deux et d'être dans, j'imagine, dans un dialogue. Ça, c'est quelque chose qui était important, surtout dans cette période, on va dire, d'explosion, de construction.
Ben, de dialogue, de confrontation, de frottement d'idées, mais en même temps de restrictions, parce que quand vous travaillez à deux, je me suis rendu compte de ça après, quand je me suis retrouvée seule, c'est qu'en fait, quand l'un apporte une idée, si l'autre dit qu'il est pas d'accord, vous revenez en arrière. Et puis c'est l'autre qui avance, et puis vous lui dites non, c'est pas d'accord, et vous allez moins vite. Alors que quand vous êtes tout seul, vous dites bon, ben, j'y vais. Je prends plus de limites. Et la prise de risque, se fait plus forte à ce moment-là. Je me suis rendu compte qu'à travailler à deux, on prenait déjà beaucoup de risques, mais malgré tout, on se contrôlait. Alors qu'après, je me suis lâchée.
C'était peut-être bien dans la jeunesse aussi d'avoir...
C'est pas mal, parce que ça vous apprend des choses.
Oui, aussi. On parlera demain, Odile Deck, de cette 3e période et surtout de ce que c'est finalement d'être une femme à la tête d'une agence d'architecture. Merci beaucoup et à demain, Odile Deck.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec Odile Deck. À voix nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Fabien Gosset, coordination Claire Poinsignon. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.